Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce 3 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Algan qui vous parle et notre équipe qui est composée de Maurice Bolduc et de moi-même. Maurice Bolduc est notre chef d'orchestre de l'émission pour la technique et le choix musical. Et qu'allons-nous lire aujourd'hui dans cette émission? Donc probablement un article à propos du Québec qui est ignoré par les nouveaux transporteurs au rabais. Et éventuellement, le tourisme à vélo connaît un essor tardif en France. Une bière vieillit sous la banquise aux îles de la Madeleine et d'autres titres si nous avons le temps. Le Québec ignoré par les nouveaux transporteurs au rabais. C'est Jean-François Coderre qui signe cet article paru dans la presse. Avec le lancement la semaine dernière de Swoop, c'est-à-dire il y a 2 semaines, parce que c'était le 26 juin, un transporteur aérien à très faible coût affilié à WestJet, le Canada compte maintenant 2 lignes aériennes au rabais. Et les plans pour une troisième sont en marche. Toutes ont une chose en commun, elles ignorent le Québec. Les premiers avions de Swoop, S-W-O-O-P, ont survolé le Québec au cours des derniers jours pour rejoindre Halifax, en provenance de Hamilton. Mais ils ne s'y poseront pas dans un avenir prévisible. L'entreprise souhaite utiliser des aéroports secondaires pour desservir le Québec et est en discussion avec certains d'entre eux, selon une porte-parole, Karen McIsaac, sans préciser lesquels. Aucun plan concret n'a encore émergé. L'autre transporteur canadien à très faible coût déjà actif, Flair Airlines, survole lui aussi régulièrement le Québec sans s'y arrêter. Le réseau de la compagnie établie à Edmonton se concentre surtout sur l'ouest du pays, mais il inclut quand même Hamilton, Toronto et Halifax, mais pas Montréal ni Québec. Il n'a pas été possible d'obtenir d'explication de l'entreprise. Une troisième entreprise, Canada Jetlines, vient officiellement de reporter son entrée en service qui avait déjà été prévue pour cet été à 2019 au plus tôt. Elle non plus n'a pas le Québec dans ses plans pour le moment, même si ses destinations envisagées incluent la Floride, Cancun et Punta Cana. Luca Johnson, président de Canada Jetlines, dit « Je pense que le Québec a beaucoup de potentiel, mais l'aéroport Trudeau a des limites d'espace et de plage horaire. » Quant à l'aéroport de Québec, poursuit celui qui est entré en poste il y a 2 semaines, ses frais sont très élevés. Je crois que c'est la raison pour laquelle les gens qui m'ont précédé ont écarté le Québec. Le porte-parole d'Aéroport de Montréal, la porte-parole, pardon, Anne-Sophie Duhamel, réfute cet argument. L'aéroport Trudeau accueille déjà deux transporteurs à très faible coût, WOW et Interjet, et s'apprête à en ajouter 2 autres, Level et Norwegian. Aucun n'est canadien. Aéroport sans aérogare, le modèle d'affaires des transporteurs à très faible coût, connu en anglais sous l'appellation Ultra Low Cost Carrier, ou ULCC, repose généralement sur l'utilisation d'aéroports secondaires, parce que leurs frais sont moins élevés et que leur achalandage moindre réduit les risques de retard. C'est pourquoi ils préfèrent Hamilton et Abbotsford à Toronto et Vancouver, respectivement. Ces 2 aéroports sont situés à environ 1 heure de route du centre-ville de la métropole voisine. Au Québec, 8 aéroports disposent de pistes assez longues pour accueillir les Boeing 737 et Airbus A320, typiquement utilisés par ces transporteurs. Outre Trudeau et Québec, 3 se trouvent à distance raisonnable des grandes agglomérations de la province, soit ceux de Mirabel, Saint-Hubert et Trois-Rivières. Les 2 premiers n'ont toutefois pas d'aérogare permettant d'accueillir les passagers de ces avions. Le 3e est légèrement plus éloigné de Montréal que ne le sont Hamilton et Abbotsford de Toronto et Vancouver. Dans notre plan stratégique, les transporteurs à très faible coût nous intéressent. confirme néanmoins la directrice générale de l'aéroport de Saint-Hubert, Jane Fogle. L'organisme en est à sélectionner une firme avec laquelle elle pourra établir son plan directeur de développement, lequel comprendra vraisemblablement la construction d'une aérogare. Le tourisme à vélo connaît un essor tardif en France, un texte signé Rebecca Frasquet de l'agence France Presse à Paris. Bien qu'en retard sur la culture vélo de l'Allemagne ou des Pays-Bas, la France développe le tourisme à vélo, une filière innovante, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois durables qui génère 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Encore marginal il y a 15 ans, le cyclotourisme connaît aujourd'hui un développement très important avec une progression à deux chiffres de la fréquentation sur pas mal d'aménagements, dit à l'AFP Nicolas Merca du bureau d'études Indigo Altermodal. Les Français sont de plus en plus nombreux à partir en week-end ou en vacances à vélo. Sur les 13 600 km d'itinéraires cyclables de l'Hexagone, rapporte l'auteur d'une étude de référence sur l'économie du vélo pour Atout France, l'agence de promotion du tourisme hexagonal à l'étranger. Signe de cet engouement, le cinquième guide thématique des éditions du Routard consacré à la petite reine vient de paraître, co-signé par Philippe Coupy et Philippe Gloagen, et consacré aux balades à Paris et en Île-de-France. Il y a une vingtaine d'années, le premier avait été un semi-échec, se souvient M. Gloagen, directeur du guide du Routard. L'idée n'était pas mûre, ce n'était pas dans la mentalité des Parisiens et les touristes n'étaient pas demandeurs. Au plan national des collectivités locales, ces dernières années, ont multiplié les investissements avec un impact économique important grâce au succès d'itinéraires comme le Vélodyssée, et ses 1300 km le long du littoral atlantique. Ainsi, la fréquentation des 420 km de la Méditerranée à vélo, empruntée par 444 000 cyclistes, a-t-elle rapporté 5,5 millions d'euros l'an dernier, et celle de 426 km de l'itinéraire V65 entre Nice et les Saintes-Maries-de-la-Mer, 18 millions selon une étude de la région Provence-Côte d'Azur, publiée en avril. Certains équipements ont un retour sur investissement de 2 à 3 ans, souligne M. Merca, comme la Loire en vélo de Nevers à Saint-Nazaire, un investissement de 50 millions d'euros qui génère 25 à 30 millions de retombées économiques par an. Moins de dépenses de santé, car les dépenses moyennes d'un cyclotouriste, 62 euros, par jour, l'équivalent de 95 $, génère des emplois durables, non délocalisables, dans l'hébergement et la restauration, dit-il. Ils utilisent l'hôtel et le camping, et très peu les résidences secondaires comparées au reste des touristes français, et visitent davantage les territoires ruraux, à l'écart de l'affluence touristique. Dans la capitale, le plan vélo 2015-2020 adopté par le Conseil de Paris bénéficie d'un investissement sans précédent de 150 millions d'euros et vise à doubler d'ici à 2020 la longueur des voies cyclables de 700 à 1400 km. Quant à l'Île-de-France, elle manque vraiment de pistes cyclables. On a des coupures urbaines qu'il faut résoudre, selon M. Coupy. Au plan national, la loi d'orientation des mobilités, la LOM, attendu à la rentrée, devrait soutenir le vélo avec 85 millions d'euros de financement par an sur le quinquennat si le gouvernement suit les préconisations du rapport de conseil d'orientation des infrastructures publié le 1er février. Le club des villes cyclables espère 200 millions d'euros par an, soit 3 euros, 4,60 $, par français et par an, qui s'ajouterait aux 7,7 euros, 11,80 $, déboursés en moyenne par les collectivités. Il faut sortir des vieilles logiques sur le vélo, dit à l'AFP le député de Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, à l'origine d'une pétition de 200 parlementaires appelant l'État à résorber 20 ans de retard en finançant des voies cyclables. Ces investissements sont rentables, ils permettent de réduire la congestion des villes, la pollution, ont un impact réellement positif sur la santé, rappelle M. Orphelin. Car le temps passé à pédaler se traduit par une forte diminution du diabète, des pathologies cardiovasculaires, de certains cancers et de la dépression, permettant à la collectivité de réaliser des économies sur les dépenses de santé, a établi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Or, pour l'heure, l'État est le grand absent de ces politiques publiques, souligne M. Merca, alors qu'il encaisse en taxe sur la valeur ajoutée l'essentiel des bénéfices. Eh bien, on a une petite surprise qui vient de nous arriver. Yves Olivier se joint à nous pour la petite émission Les Voix de Service Magazine. Et Yves Olivier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça marche le micro?
Oui, bon. Il marche, oui.
Bon, parfait. Yves Olivier va nous lire un texte tout de suite.
Oui, alors c'est concernant le défilé de la Fierté Gay à Toronto qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et en fait, en prévision de celle qui aura lieu bientôt à Montréal. Donc, c'est un texte en fait de Radio-Canada avec la presse canadienne. Alors, c'était à Toronto. De nombreuses personnes ne se sont pas laissées décourager par la pluie et assistent au plus important défilé de la fierté gay au Canada. C'était donc un dimanche en après-midi. Les organisateurs estiment que plus d'un million de personnes se sont assemblées le long du parcours au centre-ville. C'est pour une deuxième année de suite, les tensions entre la communauté LGBT et la police font en sorte qu'aucun agent en uniforme ne participait au défilé. En fait, la communauté a exprimé plusieurs récriminations envers les forces policières, notamment sur la façon dont a été menée l'enquête sur le présumé tueur en série Bruce MacArthur, on s'en rappellera. Celui-ci aurait tué au moins 8 personnes qui fréquentaient le village gay. Par ailleurs, de nombreux élus assistaient à l'événement, notamment ceux des représentants du chef néo-démocrate. Voilà ce qui a été dit. C'est très important de défendre les droits de toutes les personnes, en particulier les personnes LGBT, qui ont connu beaucoup de difficultés et de discrimination. Il y a toutefois donc une absence qui aura été remarquée cette année, c'est celle du premier ministre désigné de l'Ontario, Doug Ford.
Merci Yves-Olivier. Et nous faisons une petite pause musicale. On vous revient dans un instant.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quelle drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues. Sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève. Tout corps et tôt, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposé, viens là. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. arrive-t-il d'un pays lointain? Se voilà-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau, de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau, de ses rêves et doux rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Rien que je te mette à briller des lourds lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau. Épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
C'était la formation Feu Chatterton qui nous chantait l'oiseau.
Une bière vieillie sous la banquise aux îles de la Madeleine. C'est un texte de Brigitte Dubé, information de Philippe Grenier, paru dans la presse. Quel goût pourrait prendre une bière qui a vieilli au fond de la mer, au large des îles de la Madeleine? C'est ce qu'ont voulu savoir Anne-Marie Lachance et Élise Cornelier de la microbrasserie À l'abri de la tempête et le caméraman sous-marin Mario Cyr. Les amateurs de bière devront se rendre dans l'archipel pour satisfaire leur curiosité et goûter à la palabre d'un homme à la mer qui contient 8% d'alcool. Sur l'étiquette, on nourrit la légende de Mario Cyr qui a bourlingué au fond de toutes les mers. Il posséderait même un bistrot au fond de la mer. Il ferait vieillir de la bière à l'abri des tempêtes, dit-on. On décrit aussi ce produit insolite comme un mélange de bière vieillie sur bois et en eau profonde. Note marine, iode, bois, abysse et wetsuit. Le lancement de cette bière s'est déroulé jeudi au bistrot Alpha de Grande Entrée, propriété de Mario Cyr. On y a profité de la folle virée gourmande, un événement où des restaurateurs madelinos unissent leur créativité et celle des producteurs et d'artistes. Les 40 invités ont pu voir une vidéo commentée par Mario Cyr en présentant le processus de création de la bière qui s'est déroulé en partie sous la banquise. Au mois de février, on a fait des trous dans la glace avec une scie mécanique, on a descendu de gros barils de bière au fond de l'eau et ils y ont passé l'hiver au complet. On les a sortis il y a 3 semaines. C'était Mario Cyr qui nous disait ça. Tout comme cette bière, le processus de création a une histoire insolite, selon la directrice générale de la microbrasserie À l'abri de la tempête, Anne-Marie Lachance, et la maître brasseuse et directrice de production, Élise Cornelier. Mario Cyr nous a contactés en disant qu'il voulait une bière à son nom, raconte-t-elle. On lui a dit que nous, on ne faisait pas de produits privés, que pour nous, la créativité était importante. On a commencé à discuter, on a parlé de plans d'affaires, de morses, d'ours polaires, de plongées. Tout ça mis ensemble, ça a allumé les idées. On s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas de la bière sous la glace? Qui de mieux placé que Mario Cyr pour aller porter ça au fond de l'eau et ancrer ça? Anne-Marie Lachance et Élise Cornelier nous racontaient ça. Elles ont été séduites par la dimension recherche et développement qui rejoint la créativité qui les anime. Beaucoup de questions surgissaient, par exemple, quel serait l'impact de la pression et la durée de vie de la bière sous l'eau. Une moitié du produit a donc mûri sous l'eau et une autre en fût de chêne sur terre. On n'a pas les données sur l'incidence directe de cette opération-là, disent-elles. On continue la recherche. Actuellement, il y a de la bière sous l'eau quelque part au large des îles et elle va y passer un an. On pense que ça va la garder jeune plus longtemps, la garder hors du temps. Et ce mélange de bière, de mer et de terre a un goût à la fois un peu iodé et un peu sûr. Yves Olivier, c'est à votre tour. Qu'allez-vous nous lire ?
Le Québec fait bonne figure pour le revenu des mères.
Okay.
M-E accent grave, R-E-S.
D'accord.
Mère, père, voilà. L'écart de salaire entre les parents et les adultes qui n'ont pas d'enfants serait beaucoup moins prononcé au Québec que dans le reste du Canada. C'est du moins ce que suggère une récente étude faite par 3 chercheuses de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. C'est un texte d'Alix Villeneuve. L'étude qui se veut un état des lieux, selon Marie-Mélanie Fontaine, étudiante au doctorat en sciences économiques, dresse un portrait encourageant pour les mères québécoises. Il semblerait que les femmes au Québec soient moins pénalisées sur le marché du travail à la suite de la naissance de leurs enfants. Notez que les chercheuses étudient ici le concept de la pénalité à la maternité pour mesurer les conséquences de l'arrivée des enfants sur les revenus. Il n'est pas question ici de la hausse des dépenses qu'ils occasionnent. Par exemple, une mère pourrait voir son développement professionnel ralentir avec l'arrivée d'un enfant, ce qui réduirait son salaire. Elle pourrait aussi prendre plus de congés et ainsi diminuer le nombre d'heures travaillées. Pour dresser ses conclusions, l'équipe de recherche a analysé des banques de données de Statistique Canada. L'arrivée d'un enfant représente tout de même une diminution de revenus immédiate pour les mères, principalement en raison du congé de maternité. Les entrées d'argent baissent d'environ 33% lors de l'année de naissance, et ce, tant au Québec que dans le reste du Canada. Cependant, une fois que les mères sont de retour au travail, les effets de cette diminution se résorbent plus rapidement au Québec. Dans la province, 4 années après la naissance de son enfant, une mère gagnera de façon générale autant qu'une femme sans enfant. On s'attendait à ce que les différences persistent, mais on voit qu'au Québec, l'écart est rattrapé relativement tôt, observe Marie-Mélanie Fontaine. Dans le reste du Canada, les mères subiront une pénalité pouvant s'étaler sur 11 ans. Elles vont avoir un salaire moyen de 6% plus bas que les femmes qui n'ont pas d'enfants. Le Québec fait aussi bonne figure en ce qui concerne les revenus des femmes mariées, pour qui la maternité ne représente aucune baisse des bénéfices à long terme, alors que dans le reste du Canada, elles vont empocher environ 12% moins d'argent. Il y a des exceptions. La bonne situation du Québec est certes encourageante, mais des exceptions existent. Cette bonne situation ne veut toutefois pas dire qu'elle aille détourner notre attention du phénomène, écrivent les chercheuses dans leur rapport. Les mères de familles monoparentales et celles qui sont peu scolarisées sont particulièrement touchées. Elles auront un salaire plus bas de près de 11% et de 9% respectivement par rapport aux femmes dans les mêmes conditions, mais qui n'ont pas d'enfants. Les femmes avec 3 enfants et plus aussi connaîtront une baisse des revenus variant de 10 à 23%. Ces diminutions sont comparables au Québec et dans le reste du Canada. L'équipe de recherche ne veut pas s'avancer tout de suite sur les causes qui font que le Québec est une province plus avantageuse pour les mères. C'est le sujet d'une autre étude encore en cours. Toutefois, leur hypothèse est que les programmes familiaux du Québec permettent aux femmes de retourner sur le marché du travail plus rapidement et avec moins de pénalités sur leur carrière. Le Québec dispose de politiques familiales avantageuses comme les garderies subventionnées ou bien le régime québécois d'assurance parentale. Contrairement à ce que l'on observe pour les femmes, les pères ont des revenus plus élevés que les hommes sans enfants. Toutefois, ce bonus ne serait pas lié à la naissance. En effet, l'étude révèle que l'arrivée d'un enfant n'a pas d'impact sur le revenu des pères, tant positif que négatif. En fait, il s'agirait d'un biais de sélection, estiment les chercheuses. C'est-à-dire que les hommes avec des revenus plus élevés ont plus de chances de devenir pères. Les hommes avec de plus grandes habiletés et compétences ont de meilleurs emplois et salaires, mais sont également ceux qui sont plus désirables du point de vue de leur partenaire potentiel, et qui se retrouvent donc mariés avec des enfants, écrivent-elles dans leur rapport.
Merci, Olivier. Je continue avec un petit texte. En fauteuil roulant sur la plage d'Inverness au Cap-Breton. C'est un texte paru dans Radio-Canada Radio-Canada Nouvelle-Écosse. La plage d'Inverness au Cap-Breton fait maintenant figure de pionnière en Atlantique en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle met maintenant à la disposition du public deux fauteuils adaptés pour rouler sur le sable de la plage et deux fauteuils flottants pour la baignade des personnes handicapées. Si l'Association pour le développement d'Inverness, l'IDEA, et le comité d'accessibilité du comté d'Inverness ont travaillé de concert pour faire ces acquisitions, l'homme derrière la démarche est Colum McQuarrie, qui se décrit comme un éternel mordu de la plage. Il y a 23 ans, M. McQuarrie est devenu quadriplégique à la suite d'un accident de plongée survenu justement à la plage d'Inverness. Pendant des années, je me suis assis sur la promenade à ressentir la brise et l'odeur de l'eau salée, explique-t-il. Non seulement peut-il aujourd'hui retourner sur la plage, mais il est heureux de voir d'autres personnes avoir elles aussi cette chance. Le nouvel équipement dont la plage du Cap-Breton s'est portée acquéreuse n'est qu'un des éléments destinés à améliorer l'accessibilité de cette importante attraction touristique des maritimes. On prévoit aussi l'aménagement de rampes, de places de stationnement et de salles de bain accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Rosemary McDonald, la vice-présidente de l'IDEA, explique que ses recherches lui ont fait comprendre que plusieurs plages au Canada étaient accessibles aux personnes handicapées, mais qu'il n'y en avait aucune du genre en Atlantique. On a regardé tout ce qu'on pouvait faire sur ce site pour le rendre complètement accessible, dit-elle. C'est un moment très émouvant, affirme Mme McDonald, en observant un groupe de personnes âgées s'émerveiller de pouvoir enfin profiter de joie de la plage. Je crois que nos gens sont fiers de ce que nous avons accompli ici. L'émission va se poursuivre après une petite pause musicale. De retour dans un petit moment. À tantôt.
Écoutez les voix de service.
J'ai encore le temps pour écrire ma lettre. Je m'y mets bientôt, dès ce soir peut-être. Une lettre d'amour, c'est très important. C'est toujours du cœur dont la vie dépend. J'ai encore le temps de trouver les mots pour en dire assez sans en dire trop, car avant que nos sentiments ne changent, j'ai encore le temps pour l'appeler mon ange. Comment ces aveux seront-ils reçus? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de les mettre dans le grand néant de la boîte aux lettres. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mes lendemains qui durent, mes voeux sans condition. J'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure la procrastination. Chanson, je m'y mets demain. De toute façon, le temps qu'il faudra pour qu'elle vous parvienne, son propos sera l'histoire ancienne. Parlez-l'aujourd'hui, demande prudence. prudence, faut déprogrammer les obsolescences. Futur antérieur, passé dépassé, j'ai encore le temps de recommencer. En dormant dessus, je vais y songer, j'ai encore le temps pour changer d'idée. Et que cette chanson prenne sépulture dans le grand néant de mon disque dur. J'attendrai donc demain qu'aujourd'hui soit hier. C'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mais lendemain qui dure mes voeux sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination. Que me rassure la procrastination. J'ai encore le temps pour mon testament, je m'y mets bientôt, tôt ou tard sûrement. Comme je suis du genre à faire mes devoirs pour lundi matin des dimanches soirs. J'ai encore le temps pour me mettre en route, le temps qui musarde et le temps qui doute. Demain je ferai les trucs emmerdants, j'ai encore le temps de perdre mon temps. Comment aux enfers serais-je reçu? Je vais y penser et dormir dessus. J'ai encore le temps avant de chanter dans le grand néant de l'éternité. J'attendrai donc demain. Aujourd'hui soit hier, c'est le meilleur moyen d'exaucer les prières, de jouer les devins et de passer l'hiver. Cette désinvolture, c'est ma consolation. Mais lendemain qui dure mes voeux sans condition, j'avoue que me rassure la procrastination. J'avoue que me rassure. Pour finir la chanson, j'ai eu une idée formidable, mais on verra demain. Ou mardi.
Nous sommes mardi et on entendait Juliette et la pièce Procrastination.
Turquie. Erdogan réélu pour un mandat au pouvoir renforcé. C'est un texte de l'agence France Presse. Le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, triomphait lundi après avoir remporté dès le premier tour un nouveau mandat au pouvoir renforcé face à une opposition pugnace qui a reconnu sa défaite tout en jugeant la campagne injuste. Après avoir remporté dimanche des élections législatives et présidentielles contre une opposition vigoureuse, M. Erdogan s'est offert dans les premières heures de lundi un symbolique discours de victoire depuis le balcon du siège de son parti, l'AKP, à Ankara. « La Turquie a donné une leçon de démocratie au monde », a-t-il clamé devant plusieurs milliers de partisans qui y agitaient des drapeaux et scandaient son nom. M. Erdogan, qui règne sur la Turquie depuis 2003, ayant d'abord été Premier ministre avant de devenir président en 2014, s'est imposé comme le dirigeant turc le plus populaire, mais aussi le plus polarisateur de ces dernières décennies. Accusé de dérive autoritaire par ses détracteurs, il s'apprête après sa victoire à recevoir un nouveau mandat présidentiel de 5 ans aux prérogatives considérablement renforcées, au terme d'une réforme constitutionnelle adoptée l'an dernier par un référendum. M. Erdogan a mentionné lors de son discours nocturne, qu'il mettrait rapidement en place le nouveau système présidentiel prévu par cette réforme constitutionnelle. Le président du Haut Comité électoral, YSK, Sadi Gouven, a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi que M. Erdogan avait, selon des résultats provisoires, récolté la majorité absolue des voix dans le volet présidentiel du scrutin, synonyme de réélection dès le premier tour. Muharrem Inek, le principal opposant de M. Erdogan à la présidentielle, reconnaît sa défaite. Le principal qui est donc le président du social-démocratique, a reconnu sa défaite lundi et exhorté le président à représenter tous les Turcs. Rompant son silence lors d'une conférence de presse à Ankara, M. Inç a soutenu que la Turquie était désormais passée sous un régime autocratique avec l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle. D'après l'agence de presse étatique Anadolu, qui fait l'état d'un taux de participation d'environ 88%, M. Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec un score de 52,5% après dépouillement de plus de 90% des urnes. La coalition montée par M. Erdogan pour le volet législatif des élections récolte 53,6% des voix, selon les résultats partiels d'Anadolu, notamment grâce au score inattendu de son partenaire minoritaire, le parti ultranationaliste MHP, 11% pour eux. M. Erdogan s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal. Il a transformé la Turquie à coups de méga-projets d'infrastructures et en libérant l'expression religieuse et a fait d'Ankara un acteur diplomatique clé. Mais ses détracteurs accusent le Reis, son surnom, âgé de 64 ans, de dérive autocratique, en particulier depuis la tentative de putsch de juillet 2016, suivie de purges massives qui ont touché des opposants et des journalistes et qui ont suscité l'inquiétude de l'Europe. Avec l'entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle, M. Erdogan pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2023, voire au-delà. Cette réforme constitutionnelle prévoit le transfert de tous les pouvoirs exécutifs au président, qui pourra nommer les ministres et les hauts magistrats, décider du budget et gouverner par décret. La fonction de Premier ministre sera supprimée. Les élections de dimanche étaient considérées par les observateurs comme les plus difficiles pour M. Erdogan depuis son avènement au pouvoir, face à des vents économiques contraires et une opposition revitalisée. Muharrem İnce, un député pugnace qui a porté les couleurs du CHP à la présidentielle, s'est imposé comme le principal rival de M. Erdogan pour la présidentielle. Selon Anadolu, il a récolté près de 31% des voix. Les observateurs ont pointé des conditions de campagne très inéquitables, avec notamment une couverture médiatique largement favorable au président turc. « Cette élection a été injuste », a déploré M. İnce. Malgré l'arrestation de plusieurs de ses députés, dont son candidat à la présidentielle Selahattin Demirtas, le candidat pro-kurde HDP est parvenu à franchir le seuil de 10% des voix au niveau national, ce qui lui permet de siéger de nouveau au Parlement. Le fait que j'ai été contraint de faire une campagne en étant incarcéré a été la plus grande injustice de cette campagne, a dénoncé M. Demirtas dans un message publié sur son compte Twitter. Les opposants qui avaient mobilisé une armée d'observateurs pour surveiller les urnes ont dénoncé des irrégularités, entre autres dans la province de Sanliurfa. M. Erdogan a notamment été félicité par le dirigeant russe Vladimir Poutine, qui a loué lundi la grande autorité politique de son homologue turc. Les marchés semblaient rassurés par la victoire de M. Erdogan. La livre turque, qui s'est fortement dépréciée cette année, prenait environ 2% par rapport au dollar.
Chartre des voyageurs. La consultation s'amène à Montréal. C'est paru dans les nouvelles de Radio-Canada. Après avoir parcouru le pays, l'Office des transports du Canada, l'OTC, est à Montréal pour poursuivre les consultations publiques afin de mettre sur pied un nouveau règlement sur la protection des passagers aériens sous forme d'une charte des voyageurs promise par le gouvernement fédéral. Il est notamment question d'établir des compensations financières minimales selon les préjudices subis par les voyageurs. On peut penser à certains cas de figure médiatisés comme les passagers de deux vols d'Air Transat restés coincés pendant plusieurs heures dans un avion cloué au sol en juillet 2017. Les discussions qui se poursuivent jusqu'à la fin de l'été portent également sur les retards et les annulations de vols ainsi que le refus d'embarquement, soit le déplacement de passagers en raison d'une surréservation. Sur cette question de la compensation des passagers qui se disent lésés, un grand fossé sépare le Canada des autres pays. J'ai vu ce que les autres juridictions font en Europe et aux États-Unis pour compenser les passagers. On n'a pas ça au Canada, je pense qu'il est temps de se rattraper, nous dit un participant à la consultation, Daniel Warthold. Actuellement, ces litiges se retrouvent devant les tribunaux des petites créances et les montants à verser aux passagers sont à la discrétion des compagnies aériennes. Les consultations révèlent aussi que plusieurs clients des compagnies aériennes ne sont pas au courant de leurs droits. Pour l'Office des transports, qui chapeaute l'exercice, c'est donc la communication et la transparence qui sont au cœur des discussions. Nous savons que c'est très important d'avoir des obligations minimales qui soient justes, claires, pour les passagers aériens. C'est aussi important que les passagers sachent que ces droits existent et sachent qu'il y a des recours, selon Scott Strainer, président de l'Office des transports du Canada. De son côté, Jacob Charbonneau, cofondateur et président directeur général du site web volenretard.ca, estime que la mise sur pied d'une telle charte est tout à fait justifiée. La Convention de Montréal existe depuis 15 ans et très peu de gens la connaissent, rappelle M. Charbonneau en entrevue à RDI Économie. Cette convention permet d'aller chercher des dédommagements pouvant atteindre 8 500 $ selon le taux de change pour des préjudices vécus. Par contre, on doit prouver le préjudice, fait-il remarquer. M. Charbonneau précise que la charte canadienne qui est en train d'être mise en place prévoit des montants prédéterminés. On veut standardiser la charte canadienne avec les standards européens, toujours selon Jacob Charbonneau. Y aura-t-il un risque que les montants prédéterminés entraînent des coûts importants et amènent des compagnies à refiler la facture aux voyageurs? Au contraire, répond M. Charbonneau, le nombre de retards ou d'annulations va diminuer, pense-t-il. Cela va toucher au maximum 1% des vols, croit-il.
Les prix de la chaîne BET, Black Entertainment TV, américaine, récompensent un migrant français, de jeunes survivants et le film Panthère Noire. Mamadou Gassama, le jeune migrant malien qui a sauvé un enfant en escaladant la façade d'un immeuble parisien à la fin mai, a été récompensé à Los Angeles pour son courage lors de la cérémonie des prix BET de la culture afro-américaine qui rend hommage chaque année à des personnalités noires. Le film Panthère Noire, Black Panther en anglais, a aussi été récompensé, ainsi qu'un survivant de la fusillade de Parkland en Floride. Mamadou Gassama, qui a vu sa situation régularisée en raison de son acte de bravoure, a reçu le prix du héros humanitaire aux côtés de 5 autres lauréats. Naomi Wilder a aussi été récompensée. Cette jeune fille avait livré un discours poignant contre les violences par armes à feu lors du rassemblement Marchons pour nos vies en mars à Washington. Le courage d'Anthony Borg, un lycéen blessé durant la fusillade de Parkland en Floride, la tragédie à l'origine de ces manifestations a également été saluée. Un autre lauréat, James Shaw Jr., a lui aussi sauvé des vies en parvenant à désarmer un tireur dans un restaurant Waffle House près de Nashville, Tennessee, en avril. Nous distinguons ces héros et les remercions de nous donner de l'espoir et de nous rappeler que tout le monde a l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire, a déclaré le chanteur John Legend en remettant les 6 prix dimanche. La soirée des prix BET a par ailleurs été marquée par la victoire attendue du film de super-héros noir au succès phénoménal Panthère Noire. « Nous n'avons pas besoin d'un président en ce moment parce que nous avons un roi », a commenté l'acteur Jamie Foxx en référence au monarque de Panthère Noire pendant la remise du prix du meilleur film alors que la cérémonie était émaillée de critiques envers Donald Trump. Le trio hip-hop Migos l'a remporté dans la catégorie du meilleur groupe tandis que la chanteuse R&B SZA a été sacrée meilleure nouvelle artiste. La star de l'afropop nigérian, Davido, qui encourageait notamment contre les artistes français Booba, Dadju et Niska, a pour sa part décroché le prix du meilleur artiste étranger. « Venez en Afrique, mangez de la nourriture, portez des vêtements africains », a lancé le chanteur de 25 ans, enjoignant l'auditoire à plus de collaboration entre les artistes des États-Unis et de l'Afrique. La rappeuse Nicki Minaj a livré une prestation remarquée dans une robe en latex rouge, tout comme Meek Mill, dont l'incarcération récente avait nourri le débat sur la discrimination raciale aux États-Unis. Pour son retour sur scène lors de cette cérémonie diffusée en direct à la télévision, le rappeur a présenté une nouvelle chanson, Stay Walk, dans laquelle il dénonce avec force les violences policières.
L'agence France Presse titre un article dans la presse « Une écharpe tissée longue de plus d'un kilomètre brise un record ». Le Cambodge s'est assuré dimanche une place dans le livre Guinness des records avec une écharpe tissée mesurant 1149,8 mètres. Version longue du populaire krama traditionnel rouge et blanc. À l'initiative d'un mouvement de jeunesse lié au parti au pouvoir, plus de 23 000 personnes ont participé aux 6 mois de tissage devant le palais royal de Phnom Penh. Le krama géant a été déroulé par des milliers de personnes dans une rue de la capitale dimanche pour permettre à un responsable du Guinness de le mesurer officiellement. Avec 1149 mètres 8, vous avez établi un nouveau record mondial, Guinness a déclaré sous les applaudissements de la foule ce responsable, Swapnil Dangarikar. Le premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 33 ans, avait donné son aval à l'entreprise en tissant lui-même quelques fils à l'écharpe. Il était représenté à la cérémonie par son fils cadet Hun Mani, un parlementaire qui contrôle le mouvement de jeunesse organisateur de l'événement. Ce record mondial Guinness World est pour tous les Cambodgiens, a déclaré ce dernier. Le Premier ministre s'emploie depuis quelques années à s'attirer les bonnes grâces de la jeunesse du pays avec le lancement d'une page Facebook et l'adoption d'une attitude plus décontractée en public. La cérémonie intervient quelques semaines avant des élections législatives controversées prévues le 29 juillet, alors que l'opposition a été interdite voilà quelques mois. Selon des analystes, le Premier ministre tente de mettre en place une dynastie politique en installant ses 3 fils à des fonctions importantes. Son fils aîné, Hun Manet, et a été promu samedi à 2 fonctions militaires importantes.
Conseils pour un barbecue éco-responsable. L'été est la saison par excellence pour le barbecue, mais ce mode de cuisson est-il bon pour la santé et surtout pour l'environnement? Daniel Vézina donne quelques conseils pour être plus respectueux de l'environnement lorsqu'on manipule le grill et qu'on profite des repas à l'extérieur. 10 trucs simples qui peuvent faire une grande différence pour votre santé et l'environnement. La première, choisir du charbon de bois non traité et sans additifs, approuvé NF. Deuxièmement, ne pas utiliser de produits à allumage rapide qui dégagent des gaz toxiques et qui changent vraiment le goût des aliments. En 3, ne pas faire cuire ces aliments trop près des flammes. 4e conseil, mettre des cendres sur la braise pour éviter que le gras s'enflamme. 5, toujours cuisiner sur la chaleur indirecte en fermant un brûleur ou en déplaçant le charbon. 6, brosser et nettoyer régulièrement les grilles du barbecue. 7, éviter de cuire les aliments à plus de 300 degrés. 8. Cuire plus de poissons, de fruits de mer et de légumes et moins de viande. 9. Faire des salades de légumineuses pour compenser les plus petites portions de viande. 10. Éviter les pailles, les verres, les ustensiles et les bouteilles en plastique.
C'était les conseils pour un bon barbecue. Je continue avec un texte paru dans la presse canadienne de Martin Leblanc. Prolifération de nouvelles bières et de microbrasseries au Québec. La prolifération de nouvelles bières et de microbrasseries au Québec profite aux amateurs mais augmente la pression sur les producteurs. L'éditeur du journal Bière et Plaisir, Philippe Wouters, W-O-U-T-E-R-S, parle d'une industrie en changement où le phénomène de la nouveauté a pris par surprise plusieurs professionnels de la bière, y compris les grands brasseurs. Selon ce principe, les consommateurs cherchent évidemment à déguster et à découvrir des nouvelles bières. Il ne serait toutefois plus fidèle à une marque ou à une couleur de bière, mais plutôt à un style. Monsieur Wouters soutient que le nombre de brasseries au Québec est passé de moins de 100 à plus de 200 en moins de 10 ans. Cela a eu comme effet que 650 nouveaux produits ont été proposés en épicerie au cours de la dernière année. Si le, con- Pardon. Si le consommateur québécois boit en moyenne 220 bières par année, il ne peut même pas boire le tiers des nouveautés sorties cette année-là. Et il n'a même pas touché à ce qui existait avant. Cite comme exemple M. Wouters, natif de la Belgique. Philippe Wouters croit que tout de même qu'il y a encore de la place pour de nouveaux petits joueurs. Le défi pour les nombreux brasseurs est d'obtenir de la visibilité chez les commerçants. Les petits joueurs d'il y a 10 ans sont devenus de moyens à grands joueurs aujourd'hui, constate l'expert indépendant. Ce sont eux qui vont dicter le marché et qui vont devoir jouer un peu du coude, car la tablette du détaillant n'est pas extensible. Il croit que les meilleures places seront négociées via des ententes commerciales et des ristournes, comme les grands brasseurs le font depuis des décennies. Philippe Wouters est d'avis que la qualité de la bière au Québec s'est considérablement améliorée globalement ces dernières années. L'éditeur du plus important média francophone spécialisé dans le monde de la bière affirme que les produits brassicoles québécois ont une bonne réputation à l'international. Ils seraient reconnus pour leur qualité et leur innovation, d'après M. Wouters toujours. Malgré cela, leur niveau d'exportation demeure minime. Seuls des consommateurs avertis feraient de l'importation privée de produits d'ici. Si la qualité n'est pas un problème, la quantité n'en est certes plus non plus. L'expert souligne que le Québec profite d'un ratio de brasseries par habitant semblable à ceux que l'on retrouve aux États-Unis et au sein de plusieurs pays d'Europe.
Des cachets d'ecstasy orange à l'effigie de Donald Trump. C'est l'agence France-Presse pour Radio-Canada. Une compagnie aérienne, plusieurs gratte-ciel, des cravates, du vin ou même des steaks. La marque Trump a déjà été déclinée à toutes les sauces, mais la police américaine a récemment découvert un nouveau produit cherchant à exploiter l'image du président, l'ecstasy. La police de l'Indiana a mis la main en juin sur des petits cachets de couleur orange à l'effigie du président américain, frappés à l'arrière de l'inscription « Great Again ». Un clin d'œil à son slogan de campagne « Make America Great Again ». Les photos des cachets d'ecstasy rendus publics vendredi par la police de l'Indiana ont provoqué des réactions amusées sur les réseaux sociaux. « Ils vous promettent le nirvana, mais vous finirez déprimé et les poches vides », a ainsi tweeté un internaute. Un autre conseille d'en rester à l'écart. « Ils ont été coupés au mensonge et à la haine. Bad trip assuré. » Les trafiquants d'ecstasy utilisent régulièrement des formes et des couleurs originales afin d'attirer l'attention de leurs clients et de les fidéliser. Quelques 5000 cachets d'ecstasy à l'effigie de Donald Trump avaient été saisis en Allemagne en août 2017.
Merci Olivier. Je continue avec une petite brève et un petit article concernant l'immobilier à Montréal. L'état du marché surenchère à Montréal. Les vendeurs font de bonnes affaires à Montréal où le marché immobilier se porte à merveille. Pour la deuxième année de suite, la Fédération des chambres immobilières du Québec, la FCIQ, y observe même de la surenchère. Une propriété sur 10 s'y vend désormais plus cher que le prix demandé. Et je poursuis avec « La propriété étrangère est perçue comme une influence sur les prix des maisons » selon la presse canadienne à Toronto. Les acheteurs de maisons à Toronto, Vancouver et Montréal croient que les acheteurs étrangers influencent grandement leur marché, révèle une nouvelle étude de la Société canadienne d'hypothèques et du logement, la SCHL. Selon les résultats de l'enquête de la SCHL réalisée auprès de 2159 acheteurs récents dans les trois villes, 68% des répondants de Vancouver, 48% des répondants de Toronto et 42% de Montréal croient que les acheteurs étrangers font grimper les prix des maisons. Statistique Canada a récemment indiqué que les acheteurs étrangers ne possédaient que 4,8% des propriétés de Vancouver et 3,4% des habitations de Toronto. La recherche de la SCHL a également révélé qu'à Vancouver, l'influence des investisseurs était perçue comme plus forte que la demande et les contraintes de l'offre. Cependant, à Toronto, la perception de cette influence est plus conforme à ces facteurs. L'étude note également que 48% des acheteurs de Vancouver et de Toronto ont dépensé plus que prévu pour leur maison, mais seulement 24% des acheteurs de Montréal ont dépassé leur total prévu. À Toronto et à Vancouver, la SCHL indique que 55% des répondants ont participé à une surenchère comparativement à 17% à Montréal. En cabine ou en soute, pile, mieux vaut consommer avec soi tout appareil, mieux vaut conserver avec soi tout appareil électronique contenant des piles. Celles d'une tension entre 100 et 160 watts peuvent être interdites dans la soute. Là, on parle de voyage en avion. Liquides autorisés en cabine s'ils sont dans des contenants de 100 ml maximum, rangés dans un seul sac transparent de 1 litre maximum. Aérosol en cabine, la capacité maximale est de 100 ml par bouteille, dans la soute de 500 ml maximum par bouteille pour un total ne dépassant pas 2 litres. Donc c'était surtout pour les poudres que bientôt nous allons avoir un petit problème. Je reviendrai là-dessus un autre jour. C'est ce qui met un terme à notre émission. Merci Maurice. Merci Olivier. À bientôt.
Merci.